1921-2021, 100 ans de radio en France. En juillet 2021, Radio Campus Tours a eu la possibilité, rare, de visiter deux sites mythiques de la radio en France. Télédiffusion de France nous a permis de nous rendre à Alouy et Issoudun, au pied d'antenne, pas tout à fait comme les autres. Récit. Au printemps 2021, nous avons reçu en radio les singles Shortwave, puis l'EP Alice de l'artiste électro BXAM. La pochette de l'EP nous a interpellés. Interrogé par les titres de ses créations musicales, ainsi que par les visuels qu'il utilise, les antennes Alice, nous avons pu nous entretenir avec l'artiste, parler de sa musique, comment il la compose, et notre découverte commune du site des antennes d'Issoudun, au cœur de sa musique et de notre reportage. Bonjour BXAM, on s'est contacté au printemps 2021 avec la sortie du titre Shortwave. Tout de suite, on a accroché à la musique électro que tu proposes et surtout, notre curiosité s'est portée sur la pochette de ce titre où figurent les antennes Alice d'Issoudun. Comment as-tu découvert ce site ?
Eh bien écoute, par un grand hasard, j'ai un de mes meilleurs amis qui est parti étudier à Issoudun, à l'UT d'Issoudun. Et je ne connaissais pas cette ville et du coup, je regarde sur internet et je tombe sur ces fameuses antennes Alice. Et là, je me dis, waouh, mais ça pourrait vraiment faire une magnifique cover en fait. C'était quelque chose que je trouvais super joli. Et donc, je suis parti lui rendre visite et j'ai pris une petite après-midi pour justement aller faire des photos, découvrir ce site. Et tout de suite, j'ai su que c'était ce que je voulais avoir sur ma pochette d'EP.
Comment s'articule création musicale et passion pour un espace, un monde industriel et technologique puisque pour l'instant, sur ce que tu as produit, c'est quand même un marqueur.
Ça dépend vraiment. Bah, je t'avoue que sur le premier EP, c'était vraiment pensé pour l'aviation. Et le deuxième, non, c'était même, j'avais pas forcément d'idée quelconque pour communiquer sur le projet. C'était vraiment une image. J'ai dit la découverte des antennes d'Issoudun. J'ai trouvé ça super joli, en tout cas pour une communication visuelle également. Donc je me suis dit que ça pourrait vraiment avoir du sens. Et après, du coup, j'ai articulé un peu le projet autour de ça, tu vois, que ce soit le track naming, le clip. De base, sur le second EP, je n'avais pas du tout prévu de parler des antennes Alice. Et là, je suis en train de travailler sur un troisième projet. Là, pour le coup, c'est un truc où ce n'est pas forcément industriel. Tu auras toujours un bâtiment sur la cover, je pense, parce que ça va partir comme ça. Mais c'est plus sur le mode jeu du confinement. C'est un projet que j'ai créé pendant le confinement et que je suis encore en train de travailler. Et en gros, donc, c'était au premier confinement, on habitait à côté d'un. J'habitais chez des potes à Paris. Ils avaient un immeuble à côté d'eux qui s'appelait Résidence Paname. Le nom fait encore un peu débat auprès des potes, mais je trouvais ça super joli et je trouve que ça avait du sens dans le sens où quand tu pars en résidence aussi, c'est pour créer un projet. Et donc voilà, là pour le coup, tu vois, c'est pas du tout industriel. Là pour le coup, les morceaux sont pensés pour sous un format d'album où tu vois, tu suis vraiment une histoire de A à Z, tu vois, le début du track, et puis après ça part un peu en mode bresson, et puis après quand tu sors du projet, c'est vraiment en mode très jovial. Donc voilà, en fait, ça dépend un peu du projet.
Et depuis l'arrivée des musiques électroniques et de la culture techno aussi, des États-Unis, de Détroit vers l'Europe, la Belgique, le nord de l'Angleterre, l'Allemagne, on a eu des artistes, des lieux qui ont joué sur les ambiances industrielles, même la science-fiction. Je pense au club UFO à Berlin à la fin des années 80. Toi-même, c'est quelque chose qui t'a, dans ce que tu as pu écouter, ce qui t'a influencé ou dans ce que tu produis aussi, du coup, c'est quelque chose qui se marie bien, une musique qui correspond bien à ces lieux, à des ambiances qu'on veut créer.
Totalement, totalement. Alors, ça ne m'a pas vraiment inspiré, moi, mais effectivement, quand tu vois la Techno Détroit ou même la Techno Berlin, enfin, les différents clubs qu'ils ont qui sont juste impressionnants, tu te dis, oui, la musique est faite pour ça. Enfin, pour ce lieu-là, ça fonctionne, ça marche totalement. Et justement, j'aimerais bien vivre des ambiances comme ça, aller un week-end à Berlin et faire la tournée des clubs, justement, un peu brute, tu vois, genre ou même partir une fois à Détroit et voir, en fait, justement, comprendre, en fait, comment cette musique est née là-bas et pourquoi. Et quand tu regardes des interviews, les gens, ils expliquent que ça sent direct, ils comprennent que, tu vois, ouais, ça coûtait un peu industrialisation et ça tombait sous le sens.
En tout cas, je ne sais pas dans quelle mesure on se laisse influencer par ce qu'on voit en même temps qu'on écoute de la musique, mais l'EP avec les remixes qui est sorti, je pense notamment au premier titre, le Black Space Remix, En tout cas, quand on à l'écoute, on peut difficilement imaginer un autre espace que celui qui nous est proposé sur la cover. Alors, c'est facile puisqu'on l'a sous les yeux, mais c'est vrai que je sais pas comment cet EP, du coup, avec les remixes et les artistes qui ont travaillé avec toi pour le composer, comment vous avez imaginé les choses, mais ça va très bien, quoi.
Je sais pas comment eux ont procédé. Je pense pas qu'ils ont peut-être été influencés par la cover ou quoi. Je suis parti voir différents producteurs qui me tenaient vraiment à cœur. Donc t'as Black Space, Midi Man, Shibuya, 793 et puis Sherazade, et qui viennent vraiment d'univers musicaux différents. Tu vois, genre Sherazade, elle vient du conservatoire. Et je voulais absolument qu'il y ait une impro au piano parce qu'elle est vraiment trop douée. Et du coup, ça donne vraiment ce truc-là. Midi Man, lui, il vient plus de la Dirty Electro, un peu bass music. Et du coup, ils ont en fait chacun proposé un truc. Alors, je sais pas du tout, ouais, comme je disais, sous quel comment ils ont réussi à créer ce projet. Mais je pense que du coup, ils ont écouté les pistes. Et puis après, ils se sont interprétés le son à leur façon, par ce monde de l'univers des antennes Alice. En tout cas, j'en avais beaucoup parlé en amont, j'ai bien présenté le projet, un petit peu les idées qui ont découlé, donc peut-être.
Suite à notre premier contact
Ouais.
2021, on s'est ensuite téléphoné régulièrement pour savoir ce qu'on faisait ensemble sur ces antennes ondes courtes, puisque nous on est en région, on n'est pas très loin. À Radio Campus Tours, nous sommes partis faire un reportage sur place à Alouï et Issoudun. Est-ce que toi-même tu es allé sur ces deux sites et qu'est-ce qui t'a fasciné dans ces antennes?
Il y a un côté très futuriste en fait. J'avais l'impression de vivre une image, une BD d'un truc qui n'existait pas, qui était genre vraiment science-fiction totale. La forme, c'était juste impressionnant. Et ouais, du coup, j'y suis allé juste une fois et ça m'avait vraiment scotché. Enfin, déjà, quand tu les vois en photo, tu te dis ok, d'accord, c'est impressionnant, mais quand tu les vois pour de vrai, tu vois la structure, tu vois la taille. Et moi, dans ma tête, il c'est qu'une seule. Et puis en fin de compte, tu vois que c'est un parc énorme d'antennes. Et du coup, ça rend encore le lieu encore plus mythique, je trouve. T'as vraiment une ambiance là-bas. Et comme dit, t'as l'impression d'être sur quelque chose qui n'a jamais existé. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais t'as vraiment l'impression d'être dans un truc un peu science-fiction.
Bah déjà, on ressent quelque chose de particulier du fait que c'est un site sensible, donc on peut pas visiter réellement ces sites comme ça, voilà. Donc les informations, on prend celles qui sont accessibles au grand public, qu'on trouve sur Internet ou qu'on trouve dans des ouvrages spécialisés sur la radio en France. Et puis après, quand on est sur le lieu, c'est surtout l'aspect visuel du matériel, effectivement, qui ressemble. C'est un site unique en France, donc il ressemble à aucun autre site connu. Et puis, la passion qu'animent en plus les gens qui travaillent et qui font des choses, qui sont elles aussi uniques d'un point de vue technique. Puis bon, c'est quelque chose qu'on peut pas voir aussi. Les ondes radio, c'est quelque chose qui existe puisque la radio elle est là et qu'on est en ce moment même en train d'en faire, mais qu'on peut pas visuellement, percevoir. Donc il y a un aspect quand même qui relève encore un peu, pas de la magie, mais de cette science, voilà, difficilement palpable. Jouer au pied des antennes à Issoudun ou à Louis, ça serait le rêve pour toi, j'imagine, même si on sait que c'est fort compliqué compte tenu de la nature du site, mais en tout cas peut-être jouer dans la même région.
On a fait les demandes, on a fait les demandes et ça s'est pas passé loin. Le seul truc, c'est que du coup, ils avaient. Nous, de base, on voulait tourner un clip là-bas, tourner une live session de l'EP, justement au pied des antennes. Et Martin avait contacté, du coup, le manager avait contacté différents responsables là-bas et il y avait possibilité de le faire. Et le problème est le suivant, c'est que du coup, ils ont eu une bande 5G qui a été cramée à Marseille à cette période-là, qui a été brûlée, et du coup, ils ont préféré attendre un petit peu. Et puis c'est à ça les différents confinements qui sont arrivés, du coup on a laissé tout le projet. Mais effectivement, ça serait vraiment super. Enfin, vraiment jouer devant une antenne comme ça, ou puis une antenne comme ça serait vraiment dingue, quoi. Ça va
Ouais.
être terrible. Ça serait vraiment super. Ouais. Donc ça serait un petit rêve aussi, ouais.
Aujourd'hui, la musique électro, ta musique électro, nous a accompagnés tout au long de ce reportage réalisé sur place à Louis-Issoudun, comme si du coup la musique devenait indissociable du lieu. Tu imaginais que ça puisse être comme ça, et qu'en tout cas ta musique finisse finalement par accompagner un contenu radiophonique qui voyagera peut-être en ondes courtes sur le site des antennes.
J'ai jamais imaginé, je trouve ça super cool en plus que ça se fasse, quoi. C'est super important pour moi dans le sens où En plus, cette thématique, elle est, on parle de ces antennes-là. Moi, c'était un truc. Enfin, tu sais, je connaissais pas grand-chose à l'époque. Et là, le fait que tu m'aies mis sur le reportage, franchement, ça me touche énormément.
Merci BXAM de nous avoir accordé cette interview et de nous avoir accompagnés en musique tout au long de ce reportage, donc tourné à Issoudun et à Louis. Et puis à bientôt en ondes FM, en grandes ondes, en ondes courtes, à l'écoute de Radio Campus.
Ah bah merci à toi, à très bientôt.
Quand on traverse la plaine berrichonne, on les aperçoit depuis l'autoroute une fois passé Vierzon. Deux mâts gigantesques au milieu de la plaine, deux mâts près d'un immense paquebot de béton style art déco en bordure de la nationale. Les antennes d'Aloui, deux immenses tiges métalliques dressées vers le ciel berrichon, ont répandu partout sur le territoire les ondes de France Inter. La petite commune d'Aloui s'est retrouvée voisine de Bruxelles, Moscou, Berlin ou Monte-Carlo, sur les bandes FM des vieux postes radio. Nous nous sommes présentés sur le site d'Aloui un matin très venteux de juillet, après plusieurs vérifications, car on ne rentre pas aisément sur ce site sensible. Présentation du site par M. Mesquita, responsable d'unité d'opération sur le site.
Nous sommes sur le site d'Aloui, centre émetteur ondes longues. Actuellement, ce site diffuse le temps légal français. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il diffusait aussi France Inter Grandes Ondes. Ce site a une taille de 95 hectares, avec deux pylônes de 350 mètres et un grand bâtiment dont l'architecte est Léon Azéma, Grand Prix de Rome, et qui était l'architecte des PTT à l'époque, dans les années 30-40.
Alors vous avez parlé du temps légal, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, en quoi ça consiste et à quoi ça sert ?
La France a besoin du temps légal pour synchroniser un certain nombre de fonctions. Typiquement, si je prends le cas de la SNCF, toutes les gares doivent être à la même heure, en même temps. Les trains doivent avoir l'heure, doivent tous être à la même heure. Il y a de multiples applications chez EDF. Et les plus visibles sont les feux tricolores qui sont synchronisés, hein, la synchronisation de ces feux et la mise à l'heure de tous les clochers ou monuments historiques qui ont des grandes pendules.
Donc comment ça fonctionne en fait ? C'est-à-dire qu'il y a un signal qui part d'ici pour régler toutes les pendules, tous les feux, comment ça marche ?
Dans le bâtiment, il y a deux horloges, une normale et une secours, qui codent le temps légal. Donc on est en heure universelle, on code le décalage horaire à la France. Si on est heure d'hiver, heure d'été, des informations complémentaires, jours fériés, etc. Et cette information est codée et transmise sur l'émetteur qui est à Aloui et diffusée via les antennes. À l'autre bout, on a des récepteurs qui décodent et utilisent les informations dont ils ont besoin, hein, soit l'heure complète, soit des parties de cette information, ils l'utilisent pour soit synchroniser, soit mettre à l'heure, soit faire des affichages, voilà.
Comment on fait pour avoir l'heure exacte, précise, au millionième de seconde ? C'est peut-être même encore plus précis que ça.
Alors, c'est un système assez complexe. Nous, ici, on a deux générateurs, hein, donc deux pendules, qui sont surveillés par l'Observatoire de Paris, qui lui garantit l'exactitude, qui a ça aussi son horloge. Et l'Observatoire de Paris est en relation avec le même système mais anglais, allemand, américain, et toutes les pendules, ils vérifient qu'entre eux, qu'ils ne se dérivent pas, qu'elles ne dérivent pas, et qu'on a la même heure, entre guillemets, partout. En temps universel.
Donc à Aloui, quoi qu'il arrive, on a toujours la montre à l'heure, on est toujours à la bonne heure.
Oui, vous le verrez dans le hall d'entrée, il y a une grande pendule, elle est à l'heure, ça c'est, on le certifie. Même au changement d'heure, on ne se pose pas de questions.
D'ailleurs, ce fameux changement d'heure, parce que vous expliquez qu'il y a aussi une cohérence avec les autres pendules, disons, du monde entier. Donc qu'est-ce qui se passe ? Parce que s'il n'y a que la France qui change d'heure, comment ça se passe ?
Alors, ce que je vous ai dit au début, c'est que l'heure, c'est l'UTC, le temps universel. Le temps universel, lui, c'est lui qui est comparé. Et on vérifie que partout dans le monde, tout le monde est à la même heure. Et après, en fonction des fuseaux horaires, eh bien, il y a les décalages. Et si en plus, il y a l'heure d'été et l'heure d'hiver, ben, ça rajoute des décalages supplémentaires, tout simplement.
Aucun problème. Alors, juste une autre question. Vous avez expliqué que Radio France a laissé tomber les grandes ondes. Pourquoi ?
Ils ont considéré que les auditeurs étaient plutôt passés sur la FM et qu'il y avait beaucoup moins d'auditeurs en grandes ondes. Commercialement, c'était plus, entre guillemets, c'était pas forcément viable. Le nombre d'auditeurs n'était plus suffisant pour garder cette diffusion en grandes ondes.
Vous pourrez nous donner plus de précisions. Il me semble, j'ai entendu dire qu'à une époque, quand France Inter était émis en grandes ondes, dans les communes avoisinantes, il y avait eu des soucis. On raconte que des gens ne captaient que France Inter sur toute la bande FM ou que certains entendaient France Inter au téléphone. Vous nous confirmez?
Alors ça s'appelle les problèmes de compatibilité électromagnétique. Et effectivement, quand on a des équipements qui ne sont pas correctement installés ou réalisés, ils peuvent être pollués par la diffusion d'un centre émetteur. Donc ce n'est pas spécifique à Louis et à France Inter, mais on peut effectivement, si son installation n'est pas bien faite, avoir un morceau de fil qui sert d'antenne, donc qui va recevoir la modulation et qui va vous la mélanger à votre utilisation. Et donc on a un indésirable qui est présent dans votre application. Juste en face d'Aloui, il y a une discothèque. Je pense que eux, à l'époque, quand ils fonctionnaient, leur sono était parfaitement, entre guillemets, blindé et tout, de façon à, sur la piste de danse, ils disaient bien le morceau choisi et pas Macha qui fait son émission sur France Inter. Voilà.
Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu plus cette façade-là? Donc, vous nous avez dit qui l'a réalisée, mais est-ce que vous pouvez nous décrire un peu à quoi elle ressemble?
Alors, c'est un grand bâtiment de 25 mètres de haut, environ 80 de long, dans le style du palais de Chaillot. C'est un bâtiment qui a été début de construction en 1936, avec mise en service du centre émetteur en 1939. À l'origine, c'est le général Ferrier qui a convaincu l'État français que le support radio était le meilleur moyen pour communiquer avec la population. Donc ils ont établi le plan Ferrier qui visait à couvrir la totalité de la population française avec des émetteurs de radio. Le choix a été fait de mettre un émetteur en onde longue au centre de la France, de la métropole, d'installer en périphérie des centres ondes moyennes, car à l'époque, dans les années 30, les récepteurs n'étaient pas assez sensibles, donc on avait un complément de couverture avec des émetteurs ondes moyennes. Et pour le reste de la France, qui étaient les colonies, on a mis en service des centres émetteurs ondes courtes qui, eux, envoyaient des émissions de radio à destination des différents pays, soit en Afrique, soit en Asie. Actuellement, il n'y a plus que les émetteurs ondes courtes qui sont exploités en France.
Et pourquoi le site d'Alouy, enfin le département du Cher, ici en particulier, la région de Meun-sur-Yèvre?
Avec un émetteur ondes longues, la puissance qui était à l'origine de 450 kW, on peut considérer qu'on avait un diagramme de rayonnement, c'est-à-dire la zone couverte, qui avait un rayon entre 500 et 1000 km. Selon si on est le jour ou la nuit, c'est des problèmes de propagation. Et la France, si on l'inscrit dans un cercle, la région centre, par son nom, on le dit, on est au centre. Donc il fallait mettre l'émetteur au centre de la France. Et le site d'Alouy a été choisi, qui est bien constitué pour l'implantation de ce type d'équipement.
Et c'est aussi comme ça que le village d'Alouy est quelque part devenu presque mondialement connu, puisque son nom figure sur les vieux postes de TSF, il me semble.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'à la mise en service, le poste national, qui était son nom, sur certains postes de radio était tagué Alouy. Donc les gens se mettaient à l'écoute d'Alouy et avaient donc la radio française de l'époque. Je précise qu'à l'établissement du plan Ferrier, la FM n'existait pas. Elle n'avait pas encore été mise au point. Donc on ne connaissait que la télégraphie et la modulation d'amplitude. Pour ça que les grandes ondes ont été mises en service avec les ondes moyennes. Les premiers émetteurs FM ont été mis en service, c'était le général de Gaulle qui était président.
Donc nous nous trouvons au pied d'un des deux pylônes du site d'Alouy. Vous pouvez nous les décrire, l'installation et comment ils sont installés.
Le pylône, d'une hauteur de 350 mètres, est à sa base posé sur des isolateurs en céramique, car c'est la moitié de l'antenne. L'autre moitié est dans le sol. Actuellement, nous avons deux pylônes, mais historiquement, en 1936, il y avait quatre pylônes de 200 mètres. Et l'antenne était une nappe de fil qui sortait du toit du bâtiment et qui était tendue entre les quatre pylônes. Donc effectivement, la guerre est passée par là. La résistance a fait tomber deux pylônes. Les Allemands, en partant, ont fait tomber les deux autres, ont détruit les installations. l'État français s'est posé la question, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on reconstruit ou est-ce qu'on fait ailleurs ou autrement? Ils ont pris la décision de reconstruire. Donc le site a redémarré en 1952 avec un pylône à l'endroit où nous sommes actuellement qui était posé au sol, donc pas sur des isolateurs, et sur lequel, qui avait les bras, sur lesquels étaient tendus aussi des nappes de fil, et on avait un pylône de 308 mètres. Pylône que beaucoup de gens d'un certain âge au jour d'aujourd'hui ont connu. Et ce pylône avait un défaut, c'est qu'il était assez sensible à l'orage. On a construit un pylône secours au cas où on a un gros problème pour avoir une solution de repli. Et en 1974, il a été décidé de changer complètement le système. Donc on a érigé un deuxième pylône de 350 mètres, qu'on appelle le pylône nord. Et le pylône devant lequel on est, qu'on appelle le pylône sud, eh bien, on a enlevé les bras, on l'a rallongé de 42 mètres pour faire 350 mètres et on l'a isolé du sol en insérant ces isolateurs céramiques. Donc actuellement, nous avons un système d'antenne qui permet de déformer le diagramme pour avoir quelque chose qui est déformé dans le sens nord-sud. Savoir que théoriquement, quand on a une seule antenne, la théorie dit que la diffusion, c'est un cercle. Donc la France n'étant pas un cercle, c'est un hexagone. Il faut favoriser la diffusion nord-sud, notamment entre autres pour les Corses. Et donc on a mis deux pylônes alignés nord-sud. Et on déforme le diagramme pour couvrir au mieux toute la métropole.
Vous avez parlé d'orage, justement par rapport aux intempéries, à la foudre. Il y a un système d'isolation de ces pylônes. Comment est-ce qu'ils supportent les conditions météorologiques?
Alors, comme toutes les grandes structures, bien, il y a un système qui permet d'écouler la foudre quand il y a un impact. On voit ici au pied du pylône deux sphères qui sont écartées de quelques centimètres. On appelle ça un éclateur et le réglage de cet écart fait qu'on peut laisser passer la puissance de l'émetteur. Et si jamais il y a un impact de foudre avec, on sait qu'un impact de foudre c'est une tension électrique énorme. Quand ça arrive ici, l'arc électrique se fait et s'écoule à la terre plutôt que de remonter vers le bâtiment et détruire les installations.
Ces deux pylônes, on va les décrire, ils sont de couleur blanche et rouge. J'imagine que ce n'est pas un choix artistique mais qu'il y a une réelle utilité.
Tout à fait. Donc toutes les structures de grande hauteur et les pylônes sont peints en rouge et blanc. Ça, c'est pour l'aviation civile, pour baliser toutes les structures de grande hauteur. Et de plus, là, sur particulier à Louis, on a un système de tourniquets orange en journée. Et la nuit, les deux pylônes sont balisés avec des balises rouges. Hein, chose que les noctambules connaissent bien. Ils voient de très loin ces deux traits lumineux rouges qui permettent de situer le centre émetteur.
Quand on décrit aussi le paysage, on se situe dans une plaine agricole, donc on a ces deux pylônes et on voit aussi qu'ils participent à créer une atmosphère un peu presque de science-fiction. On a ces pylônes et on a des câbles qui servent à les tendre. Il y a toute une installation aussi pour les maintenir.
Effectivement, un pylône qui fait 350 mètres de haut et qui a la même section en bas et en haut, on est obligé de le maintenir debout à l'aide de haubans. Donc c'est un pylône haubané. Donc on a un certain nombre de haubans qui le maintiennent droit.
Tout à l'heure, on a parlé de la guerre. J'imagine que durant la période de la Seconde Guerre mondiale, les installations d'Alouis, c'était plutôt militaire. C'était quand l'armée allemande les utilisait, quand la résistance les a détruits, c'est parce qu'il y avait des usages qui étaient faits à des fins militaires.
Pas forcément des fins militaires, mais des fins de propagande. Radio Paris. Radio Paris-Mans, c'est quelque chose qui est connu. Donc Radio Paris était diffusé du site d'Alouis, bien que produit à Paris. Hein, les studios à Paris, mais il y avait des liaisons téléphoniques qui permettaient d'acheminer la modulation, que les résistants ont saboté aussi. Ils ont réussi à voler quelques mètres du câble, ce qui fait que le temps qu'on répare, il n'y avait plus Radio Paris-Mans, entre guillemets. Et à côté... pas loin, on a un centre émetteur onde courte, car Alouis avait aussi un centre émetteur onde courte. Le centre émetteur onde courte a été utilisé pour brouiller d'autres radios.
Étant donné la hauteur des antennes, on peut peut-être rappeler, pour un point de comparaison qui parlera à pas mal d'auditeurs, c'est comparé par rapport à la tour Eiffel. Et puis aussi, en région centre, on a une région Voilà, où les reliefs sont très très modestes. J'imagine qu'on est peut-être même ici sur le point culminant de la région centre.
Alors, point de vue hauteur, le pylône le plus haut se trouve au centre émetteur de René, qui est un centre militaire. J'en dirai pas plus. Le deuxième, c'est Alouis, 350 mètres. Le troisième, la tour Eiffel, 327 mètres avec ses antennes. Pour l'ordre d'idée, et effectivement, visuellement, quand on regarde notre pylône qui fait une section de 3 mètres sur 350 mètres, on n'a pas l'impression de masse que peut donner la tour Eiffel avec sa structure, avec ses quatre piliers.
Alors vous nous avez expliqué là, le rôle de l'État français dans l'histoire de ce site, mais aujourd'hui, ce site, il appartient à qui? En fait, à qui appartiennent ces structures?
À l'éclatement de l'ERTF en 1974, la répartition des activités fait que Télévision de France a récupéré tous les sites de diffusion et en est, en tant qu'entreprise, propriétaire.
Après un tour extérieur du site, nous rentrons dans le vaste bâtiment où ronronnent en fond sonore des séries de machines situées derrière des vitres, dans des salles, où se trouvent aussi de grandes consoles et tables de contrôle aux boutons lumineux.
Alors, le site, pour pouvoir diffuser l'heure, il faut la créer. Donc, on est dans ce qu'on appelle la salle des pilotes. On a deux pilotes au césium qui ont une précision de 10-12 sur le temps et qui, eux, génèrent le temps universel. Donc, actuellement, 8h44 et quelques secondes. Et à côté, on a une autre bête qui code le temps légal français, donc qui rajoute le fuseau horaire et, si on est en heure d'été et en heure d'hiver, voir, comme je l'ai déjà dit, des informations complémentaires sur les jours fériés, etc. Et ce message codé, c'est lui qui est transmis aux émetteurs et qui est amplifié et diffusé au niveau national.
Donc là, on se situe dans une autre salle qui ressemble à une salle de contrôle avec des tableaux, des voyants, des clignotants. À quoi tout cela sert et comment tout cela fonctionne?
Nous sommes au pupitre, donc c'est l'endroit qui nous permet de superviser le fonctionnement du site. Que ce soit côté énergie, côté émetteur, les données, est-ce qu'elles arrivent bien sur les équipements, la salle qui permet de valider le fonctionnement. Alors historiquement, le pupitre était beaucoup plus petit. En 1939, au démarrage, dans la salle qu'on a juste en face de nous, la salle d'émission, il y avait deux émetteurs de 450 kW à tube qui faisaient de ce site l'émetteur le plus puissant du monde avec 900 kW. Ensuite, après la guerre, les destructions par les Allemands, on a redémarré avec un émetteur de 250 kW en 1952, auquel très rapidement on a rajouté un deuxième, ce qui faisait 500 kW. La qualité n'étant pas suffisante, on a décidé d'implanter un émetteur de 600 kW à tube, toujours à tube. Et en 1974, on a mis un émetteur de 1000 kW à tube en ayant démonté les émetteurs de 250 kW. Dans les années 80, 81 si je ne me trompe pas, on a mis un deuxième émetteur de 1000 kW. Donc la capacité du centre d'émetteur était de 2600 kW avec des émetteurs à tube. La technologie évoluant, dans les années 2000, on a remplacé un émetteur à tube par ce qu'on appelle un émetteur état solide, c'est-à-dire à transistor. Donc, devant nous, nous voyons un émetteur composé de trois blocs de 400 kW, donc une capacité de 1,2 MW, qui est totalement à transistor. Trois ans après, en 2003, on a décidé de réinstaller un deuxième émetteur état solide et de supprimer le dernier émetteur à tube. Donc actuellement, on a un système qui est totalement géré par des systèmes informatiques. On n'a plus les problèmes des tubes qui étaient des choses très fragiles et très sensibles. We'll be right back.
Après avoir visité le site d'Alloui, M. Mesquita nous a donné rendez-vous à Issoudun, à une vingtaine de kilomètres, dans le département de l'Indre. Nous sommes toujours en pleine champagne berrichonne, la vue est dégagée sur la plaine céréalière, de gros nuages filent sur l'horizon, et au milieu se dressent plusieurs antennes de tailles et formes différentes. Des antennes qui forment un rideau métallique, comme une nasse de pêche ou un filet à papillons en plein ciel, et d'autres antennes, rouges et blanches, d'aspect plus moderne et aux dimensions gigantesques. Nous sommes invités à rentrer dans un bâtiment en bordure de ce site.
Issoudun, ce sont des ondes courtes, c'était la diffusion de la radio pour les colonies françaises à l'origine, et au jour d'aujourd'hui, les pays francophones ou les pays où il y a des conflits. Les ondes courtes ayant la propriété de se propager de manière lointaine en utilisant la réflexion sur les couches ionosphériques du ciel.
Pour expliquer à nos auditeurs qui ne sauraient pas comment fonctionnent exactement des ondes courtes, est-ce qu'on peut imager le propos pour mieux comprendre ce principe de réflexion ?
L'image, c'est un rayon lumineux. Imaginons que nous soyons sur une zone plate ou courbe, pourquoi pas, accidentée, et qu'on veuille éclairer un endroit lointain de manière tel un spot, eh bien, il suffit de se mettre à un endroit avec un faisceau lumineux, une lampe électrique, pourquoi pas, et viser le ciel en utilisant un miroir comme réflecteur. C'est ce que font les ondes courtes, elles utilisent les couches ionosphériques du ciel comme miroir pour faire des rebonds et aller arroser sous forme d'ondes radio une zone bien précise. Donc à partir d'Issoudun, on peut faire l'Amérique du Sud, on peut faire l'Asie, hein, les parties de l'Asie ou d'Europe. Voilà. C'est selon les besoins.
Donc aujourd'hui, c'est pour une radio type Radio France Internationale.
Oui, il y a Radio France Internationale, mais aussi d'autres radios d'État, hein, soit allemandes, soit. Ces prestations sont à la demande. Mais le client principal d'Issoudun, Ondes Courtes, c'est Radio France Internationale.
Louis, on se situait sur un site dont la genèse date d'avant-guerre. Et ici, à Issoudun, comment se construit ce site? Dans quelle période on s'inscrit? Dans quelle histoire?
Alors, Issoudun, l'idée de sa construction date de la même époque à Louis, sauf qu'ils ont commencé les travaux avant-guerre et qui sont arrêtés pendant la guerre. Et en fin de compte, les émetteurs ont été finis d'installer après-guerre et début des émissions en 1950.
En termes d'installation, de construction, ce site, comment il se présente? À Louis, on était sur un site qui chiffre en hectares ici. Comment est configuré le site, le bâtiment où se situe, ce qu'on voit autour de nous?
Alors c'est pareil, c'est en hectares, mais parce que le principe d'un centre émetteur ondes courtes à l'époque, c'est un centre émetteur en centrale, hein, qui a entre 4 et 8 émetteurs en général, et autour, sur le terrain, des antennes qui sont, elles, directives. C'est-à-dire que si on dit qu'on fait l'Amérique latine, on a une antenne qui est orientée vers l'Amérique latine. Et cette antenne, on ne peut pas la bouger. Donc on a une autre antenne qui est orientée vers la Chine ou hein, l'Indonésie, l'autre vers l'Afrique. Les antennes sont disposées sous forme d'étoiles et orientées de manière à ne jamais se croiser. C'est-à-dire qu'on les utilise que dans un sens et à aucun moment des faisceaux d'ondes électromagnétiques ne peuvent pas se croiser, sinon il y aurait du brouillage. Au départ de l'émission, donc ça serait négatif en résultat qualitatif, quoi.
Je voudrais savoir, est-ce qu'il a besoin d'une autorisation d'émettre particulière pour émettre par exemple vers la Chine ou d'autres pays ou, comment ça se passe en fait quand un client contacte votre société? J'imagine qu'on peut n'importe qui peut pas vous demander d'envoyer des ondes. Au-delà des mers.
Disons qu'il y a des demandes d'autorisation d'émettre. Hein. C'est pas n'importe, même en tant que particulier, vous n'avez pas le droit de faire une émission. Il faut être radioamateur, il faut avoir des autorisations, il y a des bandes de fréquences à respecter, etc. Et c'est aussi le cas. Donc il y a des fréquences. Les clients, on doit simplement, on vérifie qu'ils soient autorisé, que ce ne soit pas, j'irais, des émissions non souhaitables point de vue éthique, hein, mais ça n'empêche pas d'avoir des émissions qui peuvent très bien ne pas correspondre à l'esprit politique du pays qu'on arrose. Hein, Il y a des émissions d'information. Après, si on prend le cas du Mali en ce moment, s'il y a des élections, on peut avoir un parti qui demande à faire une émission parce que sur place, il n'a pas les moyens, il le fait en ondes courtes à distance. Donc un parti politique qui fait une campagne électorale via une émission ondes courtes, ça peut arriver.
À Issoudun toujours, Monsieur Mesquita pousse la porte d'un immense espace où est exposé, rangé, trié, réparé et utilisé un ensemble de matériel audiovisuel impressionnant. Nous nous trouvons face à une caméra de l'ORTF, une diode à vapeur de mercure, un plateau météo des années 80. Nous sommes sur un site où s'affaire l'association du Centre historique de la diffusion radiophonique, l'ACHDR. Visite. Devant nous, on a du matériel qui visiblement date du tout début du XXe siècle, qui est peut-être même encore plus ancien. Quelle est l'invention, quel est le progrès technologique qui permet de passer à ce qu'on a sous les yeux, qui ressemble au poste radio du navigateur à bord du Titanic, lançant son SOS, au matériel qu'on a vu précédemment, qui ressemble quand même plus à ce qu'on connaît nous?
Il faut savoir qu'au début, la radio, c'était des émetteurs à arc. Donc quand on fait un arc, on génère une gamme de parasites. Et on était capable de détecter qu'effectivement, quand il y avait l'arc, il se passait quelque chose, on recevait quelque chose à l'autre bout. Donc, les premières idées, c'est de dire, eh bien, avec ça, arc et, ou pas arc, on fait du morse. Donc, on a pu commencer à faire de la télégraphie sans fil. Ensuite, l'idéal, c'était effectivement d'avoir une fréquence et pas une flopée de parasites. Et avec l'invention du quartz, hein, qui est un cristal, eh bien, on a su récupérer une onde précise. Et après, il suffisait de l'amplifier. Et là, qu'on fasse de la télégraphie ou de la phonie, c'est-à-dire de la parole, et avec un micro, Dieu de mettre le manipulateur morse, on mettait un micro, et on avait une émission de son amplitude. Donc là, dans ce centre émetteur ondes courtes, c'est ce qu'on voit, on a des quartz qui sont maintenus en température pour bien être stable en fréquence, on faisait le choix de la fréquence, on allait sur une chaîne HF, donc avec un amplificateur qui s'appelait donc HF2, ensuite, comme on voulait monter en puissance, HF3, HF4 et HF5, tout ça pour avoir 120 kW de puissance sortie. Et les tubes de sortie sont assez énormes parce qu'ils font environ 40 cm de diamètre et 1 mètre 20 de haut et refroidis par eau. On est entré dans la grosse machine.
On parle d'eau, donc on parle d'hydraulique, on a parlé de quartz. Ce matin, on a aussi parlé de césium. En fait, la radio, tout ce qu'on voit, ça concerne plein de sciences dures, différentes.
Les premiers qui ont approché la radio, ils ont simplement découvert des phénomènes. Hein, la propagation, Hertz, Branly, voilà. Il y en a un qui a eu l'idée de dire... c'est intéressant tous ces trucs-là, si on les rassemble, est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose? C'est Marconi qui a eu l'idée d'utiliser les découvertes des différents savants et de les assembler pour faire une émission. Et c'est lui qui a vulgarisé la diffusion radio, la télécommunication.
C'est-à-dire qu'en fait, la radio, elle est possible à partir du moment où plein de scientifiques, de chercheurs dans leur coin font des découvertes et que quelqu'un fait sens de toutes ces découvertes pour en faire quelque chose de nouveau.
Oui, tout à fait, parce que de manière individuelle, les découvreurs et les savants ont mis en évidence un phénomène, mais ils n'ont pas forcément fait la relation avec la possibilité qui était donnée à ce phénomène. Par exemple, quand ils ont mis au point, Edison a fait l'ampoule électrique, il a eu l'idée de mettre une troisième électrode dans l'ampoule électrique pour voir ce qui se passait. Et puis, il y en a d'autres qui ont creusé la chose et on a fini par exemple, le général Ferrier qui a fait les célèbres lampes TM, hein, télégraphie militaire, qui servaient dans leur poste de communication pour l'armée. Donc, télégraphie militaire sans fil. Et donc, ils ont développé et ces lampes-là ont été réutilisées ensuite après la guerre pour faire des postes de radio. Et de fil en aiguille, on a fait évoluer la technologie et avoir des choses de plus en plus performantes.
Oui, parce que ce matin, en arrivant sur le site, on ne pensait pas qu'on parlerait d'eau, on ne pensait pas parler de minéraux, parler d'ampoules électriques, et en fait parler de radio, quoi.
Tout à fait. Il faut utiliser les moyens qu'on a. Hein. Donc, les progrès font que les rendements sont meilleurs, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, pour avoir 120 kW en sortie, on en consommait 500. Et qu'il fallait refroidir le système avec de l'eau pure. Donc, il fallait fabriquer de l'eau pure. C'était consommateur d'énergie avec un rendement assez faible. Il n'y avait pas besoin de mettre de chauffage dans les salles d'émission. Ça chauffait tout seul.
Là, on se situe dans la sacristie de ce lieu où est stocké un ensemble de matériel audiovisuel et radiophonique toute époque. On a vu notamment des pupitres qui ont eu récemment reconnu de nouveau leur petit moment de gloire grâce à la télévision.
Oui, nous sauvegardons le patrimoine de la radio et de la télévision. Donc effectivement, les sociétés de production cherchent des éléments de décor et nous sollicitent, surtout pour le matériel technique, un studio de speakerine par exemple, c'est des caméras, des pupitres, des éclairages. Nous avons sauvegardé quelques morceaux et nous les mettons à disposition pour leur permettre de faire leur feuilleton ou leur film. Ça nous est arrivé plusieurs fois et de différentes époques. Hein. Ça peut être des années 50, mais certaines dernièrement, des années 70, 80, ça arrive assez régulièrement.
Imaginons qu'une grave crise secoue la France. Où est secouée la France ? Là, on se situe dans un studio de crise d'époque.
Oui, le studio était à l'origine situé dans le centre émetteur d'Alouis et aurait servi au cas où la maison de Radio France soit indisponible. On pouvait, avec un animateur radio et un technicien, faire une émission en direct à partir du centre émetteur. Donc ce studio est composé d'une table de mixage, platine pour lire les disques, des magnétos à bandes et une machine avec 4 jukebox qui permettait d'enchaîner les disques 45 tours.
Donc pour ceux que la programmation musicale intéresse, en fait ici on a tout le matériel pour faire de la prog musicale sans utiliser de WAV ou de MP3, mais tout avec des disques vinyles.
Tout à fait. Donc la programmation se faisait en prenant les disques vinyles. Donc on est les pochettes avec le nom des chanteurs, etc. Donc la personne prenait le jukebox vide et alignait ses 45 tours les uns derrière les autres. Et avec le pupitre de commande, on allait lire les disques les uns après les autres. Donc on faisait une playlist.
Et imaginons qu'un invité souhaite placer un titre qui ne soit pas dans la playlist qu'on ait préparée.
On a une platine disque indépendante qui permet de lire donc un disque spécifique, voire une annonce. Et les magnétos à bande permettaient de passer soit un reportage, soit un enregistrement de concert, des choses un peu atypiques qui n'étaient pas la playlist classique.
Donc en fait, on a tout le matériel qu'aujourd'hui on appellerait PC podcast, table de mixage, PC pour lire des musiques. Et si on veut faire un peu de montage, qu'est-ce qu'on veut utiliser ?
On utilise les magnétos à bandes. Donc, on a une table de montage avec les ciseaux, les petits scotch pour accorder les bandes et les vitesses variables pour écouter et caler correctement les bandes.
Donc, en gros, ce studio fonctionne. Rien ne nous empêche, si on souhaite, d'émettre sur l'FM avec le matériel d'époque existant. Peut-être juste un petit craquement sur le son.
Ah ben, tout à fait. Le matériel étant d'époque, un vinyle 45 tours, ben, ce n'est pas un fichier audio. Donc, il y a les phénomènes de lecture, etc. Et pareil pour tout ce qui est magnéto à bande. On a l'âge du matériel qui va avec.
Nous sommes toujours sur le site d'Issoudun. Nous sommes au pied d'une antenne Alice. Et donc avec une antenne Alice comme celle au pied de laquelle nous nous trouvons, on peut émettre en courte vers toute une région, une zone géographique du globe.
Oui, en fonction de la configuration d'antenne qu'on va choisir et l'orientation qu'on va lui donner, on va pouvoir choisir d'arroser l'Inde ou le Pérou ou pourquoi pas le pôle Nord si on en a envie. Là, comme elle peut prendre n'importe quelle direction, on peut cibler n'importe quelle zone du globe. En exploitation normale, il y a un planning de diffusion et tous les jours, à telle heure, on sait qu'on change de fréquence, on prend telle orientation, on prend telle modulation et on fait une émission qui va durer une heure et demie, trois quarts d'heure.
Quand on travaille sur un tel site, est-ce que quand on rentre chez soi, on a l'impression d'avoir passé la journée sur un site qui sort quand même de l'ordinaire, ne serait-ce que visuellement, avec tout l'univers qu'il peut véhiculer?
Tout à fait, les sites sont totalement atypiques. Il faut savoir que le site d'Issoudun est unique en France. Le site d'Alloui l'est aussi, bien qu'il existe toujours les anciens sites d'émission de RMC ou Europe 1 en périphérie de la France. C'est particulier, ils sont uniques et avec des technologies aussi particulières et qui fait que le personnel qui y travaille a une des connaissances assez pointues dans ces domaines et ne sont pas forcément polyvalents et peuvent difficilement passer à autre chose. Il faut les reformer.
Et d'ailleurs, si on a de jeunes auditeurs ou de moins jeunes auditeurs et auditrices qui souhaiteraient travailler sur un tel site, vers quelle formation vous les orienteriez?
Il faut avoir de bonnes bases en électrotechnique ou en électronique. Parce que c'est de la maintenance sur des appareillages de forte puissance. Il faut savoir analyser un schéma, le fonctionnement d'un sous-ensemble. Donc les niveaux minimum requis, c'est BTS dans ce type de domaine.
Bien, merci de nous avoir permis d'accéder, de pouvoir visiter ces sites assez extraordinaires hein, de la radio et du paysage radiophonique français.
Bah, merci à vous. Journée sympathique et toujours content de transmettre et de dévoiler un peu la partie cachée de la radio.